Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Bien, pour cette émission de rentrée ce 29 août, nous collons à l'actualité puisque j'ai le plaisir de revoir Joël Alessandra. Bonjour Joël.
Bonjour Sylviane.
On se connaît bien depuis au moins une dizaine d'années, peut-être une dizaine de livres sur vos 40.
Ah, c'est
oh là
ça.
Là, je fais la promotion.
Merci.
Et surtout, le livre est paru avant-hier, le 27 août 2025, puisque je vous reçois pour parler surtout de « Je est un autre », Rimbaud, le poème perdu au Harare. Vous êtes un passionné de Rimbaud, un passionné d'Éthiopie, un passionné de BD.
Un passionné de la vie, tout court.
De la vie. Et j'ai vraiment grand plaisir de vous recevoir. Et ce qui serait encore mieux pour nos auditeurs, c'est d'aller demain à Uzès, puisque vous êtes en dédicace à la librairie Place aux Herbes, c'est ça?
Oui, alors à partir de 10h30 et jusqu'à 13h, j'aurai l'honneur et le plaisir de recevoir les gens qui voudront un joli dessin à l'aquarelle sur « Je est un autre ».
Moi, j'ai déjà le mien. Voilà, voilà. Mais j'en ai plusieurs puisque vous... Je ne vais pas dire que vous êtes éclectique parce que vous avez fait des sujets très, très différents. Vous faites aussi les carnets d'ailleurs, vous faites des carnets de voyage. Mais vous évoluez et vous me disiez tout à l'heure, cette BD, c'est plus une lenteur, une promenade, une déambulation, une itinérance, c'est plus...
Oui, une itinérance, ça tombe bien, puisqu'on est dans l'émission itinérance. Il y a toujours quand même ce fil rouge du voyage, et oui, notamment de l'Afrique. Mais là, c'est vrai qu'on est sur un roman graphique qui est beaucoup plus latent, beaucoup plus doux, beaucoup plus lent. L'album s'appelle « Je est un autre », un voyage avec Rimbaud. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un aller-retour entre le Rimbaud du Harare, le Rimbaud d'Éthiopie. On a perdu en cours de route le Rimbaud poète puisqu'il a arrêté d'écrire à 19 ans. Et puis, il s'en va, l'homme au sommet devant se retrouve un petit peu emporté au gré des pays, Chypre, Aden, le Yémen, Djibouti, Obok, Tadjoura, pour finir les 10 dernières années de sa vie au Harare en Éthiopie. Et donc, voilà, ce livre, c'est un petit peu une enquête autour de ça.
Alors, ça explique que les deux, vous êtes le spécialiste des bleus, mais là, des très beaux bleus. Hein, allez voir tous vos livres, tapez Joël Alessandra et vous verrez, c'est magnifique.
Merci.
Et là, il y a un aller-retour, vous l'avez dit, c'est plutôt dans les ocres pour Rimbaud, l'époque de Rimbaud, et dans les bleus, vous, enquêteur, vous, Sherlock Holmes.
Oui, alors, le pitch, on peut un petit peu en parler. Enfin, le récit lui-même, c'est une espèce de quête d'un dernier poème fictif d'Arthur Rimbaud.
Parce
voilà, moi, j'ai la chance d'aller très souvent en Éthiopie, très souvent en Afrique de l'Est. Et je me suis toujours posé cette question. Rimbaud passant les 10 dernières années de sa vie au Harare. Au Harare, il y a... alors, le Harare est considéré comme la 4e ville sainte de l'islam à l'époque de Rimbaud. Rimbaud avait un Coran à la maison quand il était petit. Son père avait traduit le Coran en français, donc Rimbaud avait lu le Coran. Et on sait quand même qu'il était, lors de ses dernières années, très proche de l'islam, en fait. Hein. Et donc, il fréquente le cercle soufi. Donc, les soufis, c'est une branche de l'islam qui va parler de leur religion à travers la danse. On connaît les derviches tourneurs en Turquie. Mais ils vont parler aussi, valoriser leur religion, exprimer leur religion à travers la danse, le chant, la poésie aussi. Et au Harare, il y a un cercle soufi qui pratique la poésie. Et donc, je me dis, mais c'est quand même
Rimbaud
assez...
Rimbaud
les a fréquentés, ça, on le sait, puisqu'il écrivait quand même beaucoup à sa sœur et à sa mère. Il y a toute une correspondance.
Une correspondance, oui.
Et puis, on le sait avec des témoins qui l'ont croisé au 19e siècle, en fait, qui l'ont croisé là-bas, on sait qu'il fréquentait le cercle soufi. Et donc, je me dis, bon, c'est une hypothèse complètement farfelue, hein, mais, mais qui est assez troublante, je trouve. Et tout le pitch, en fait, tout le fil conducteur de ce livre, de cette histoire, c'est ça.
Est-ce que le poème a existé?
Est-ce que Joël et Sandra, dans les pas de Arthur Rimbaud, va réussir à retrouver ce poème?
Il ne faut pas dire la fin.
Bon, non, bah, évidemment. Le suspense reste entier.
Alors, je connais bien ce Rimbaud parce que par les livres et surtout par une très belle exposition qu'il y avait eu il y a quelques années au Carré d'Art. Et j'avais eu la chance de rencontrer et d'interviewer Hugues Fontaine, qui est vraiment le spécialiste de l'Éthiopie, qui a écrit Ménélique, qui a écrit fait des photos. Philippe Auberlé, qui est aussi un spécialiste de l'Éthiopie, et Jean-Jacques Salgon, qui a vécu à Obok. Donc, ça m'a vraiment passionné ce roman, hein, on va dire, ce roman graphique. Votre façon de le voir, ça ne s'adresse pas aux Rimbaldiens, comme on dit, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse...
Oui, alors, ça s'adresse aux gens qui sont un petit peu férus de voyage, bien entendu, oui. de poésie, et puis de belles images, parce que là, on est presque sur un carnet de voyage, finalement, oui. puisqu'on est à la fois... moi, j'ai beaucoup dessiné là-bas, donc pour le livre, j'ai refait un voyage il y a un an et demi, deux ans. Donc, comme vous le disiez, j'ai séjourné à Obok, à Tadjoura. Effectivement,
il y a une carte.
Il y a une petite carte, oui. Pour ce... Mais on reste sur la Corne de l'Afrique, en fait. Oui. Si les auditeurs imaginent un petit peu cette Corne de l'Afrique, c'est vraiment un nez hein, qui est sur le...
Je ne connaissais pas le nom Babel...
Alors, Babel Mandeb, ça veut dire la porte des larmes. Et c'est vraiment le détroit qui sépare c'est dans le golfe d'Aden en fait qui sépare l'océan Indien de la mer Rouge, la mer Rouge remontant vers l'Égypte, vous voyez hein. Et Bab el Mandeb, donc il y a des forts courants, il y a beaucoup de vent, etc. Et on appelle ça la porte des larmes parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de naufrages, etc. Bon, aujourd'hui c'est beaucoup fréquenté par les pirates hein, toujours, même s'il y a eu de gros efforts de défense autour de ça, mais voilà. Et donc, j'ai beaucoup dessiné sur place.
Avec le
petit carnet, évidemment. et le livre est composé donc, de grandes aquarelles. Enfin, là, j'ai travaillé sur de grands formats. Beaucoup de scans. Oui, il y a beaucoup de doubles pages à l'aquarelle. Et puis,
petits dessins en noir et blanc, comme vous aimez.
Voilà, et les dessins noir et blanc, souvent, sont issus, scannés directement de mes carnets de voyage faits sur place. Donc,
On en avait parlé souvent dans les émissions précédentes. Donc, je pense que vous avez toujours été dans Itinérance. Donc, vous cliquez sur Itinérance, Joël Alessandra, et vous avez le choix, mais vous avez fait aussi beaucoup d'autres choses. Avant, la question que je me pose, Joël, je sais un petit peu la réponse, mais cette passion de l'Afrique, elle est venue comment ?
Alors, elle est venue naturellement, naturellement, c'est quand même un hasard, puisque moi, j'ai fait une école d'art appliquée à Paris, qui est l'école Boulle, j'ai fait 6 ans. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas comment dire, mais pour nous, les garçons, arrivait l'âge du service militaire.
Vous n'aviez pas envie du tout.
Je me voyais pas au sortir de l'école partir avec des Rangers à Baden-Baden en Allemagne et dans le froid hivernal de l'Est. Par chance, le ministère de la Coopération, il y avait un ministère de la Coopération à l'époque, qui aujourd'hui a fusionné depuis très longtemps avec le ministère des Affaires étrangères, c'est le MAE. Recruter dans les écoles d'art appliqué des jeunes pour partir dans les centres culturels français, qui s'appellent aujourd'hui des instituts français ou des agences françaises, mais à l'époque c'était les centres culturels.
Alors, c'était en 1990.
1980. Je suis parti en décembre 1989 exactement, donc oui, en 90. Je suis resté presque 2 ans et ma destination, donc le ministère m'a posé la question, me disait mais il y a 3 destinations, il y avait Madagascar, je crois, ou Guinée-Bissau et puis il y avait Djibouti. Alors, Djibouti, moi, ça me parlait pas plus que ça. Hein.
Après, j'ai regardé. Il faisait chaud.
C'est clair. C'était à l'époque l'un des endroits les plus chauds du globe. Je crois que il y a d'autres endroits maintenant plus chauds du globe, partout maintenant. Et je me retrouve propulsé en Afrique pour la première fois de ma vie.
Et depuis, ça n'arrête pas.
Et depuis, je voyage beaucoup, beaucoup en Afrique centrale, au Congo, RDC, en Centrafrique, un peu moins maintenant, au Sénégal, enfin un petit peu partout, hein, en Mauritanie. Là, j'y retourne au mois de novembre.
Mais toujours avec des missions, hein. C'était ouais, alors, sur place, vous faites pas que dessiner, vous donnez votre temps et votre savoir et votre.
Bah, c'est toujours autour du dessin et de la bande dessinée, bien entendu, parce que bon, en RDC par exemple, dans le Kivu, en fait, c'est le Kivu, c'est la frontière du Rwanda. Mmh. J'ai fait pendant assez longtemps des sessions de comment dire, des stages de bande dessinée, mais alors les Congolais sont d'excellents dessinateurs, ils sont vraiment extrêmement doués. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la narration, au niveau du découpage, au niveau de tout ça, bon, on a des choses à transmettre et c'est mon job. Là, je repars en Mauritanie, je vais faire des cours, enfin en tout cas des ateliers pour les jeunes, et là on sera vraiment en brousse, on sera vraiment dans le désert. Là, on part 15 jours en 4x4 faire les ateliers dans des micro-alliances françaises qui sont perdues au milieu du Sahara, donc ça va être passionnant. Mais oui, il y a toujours un but, il y a toujours quelque chose derrière, parce que bon, y aller en tourisme, moi, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas, en tout cas, c'est pas ma vision du voyage.
Oui, puis vous avez créé aussi les carnets de
voyage. Oui, alors Carnet d'ailleurs, qui est le magazine trimestriel de Carnet de voyage, où on parle évidemment de tout un tas de destinations, qu'elles soient mondiales, européennes ou françaises. Il y a tout un tas de rubriques aussi.
C'est collectif.
Oui, oui. Alors, il y a plusieurs auteurs. Il y a à chaque fois, on essaye d'avoir trois reportages par destination. Enfin, trois pour la France, trois pour l'Europe, trois pour le monde. On a un invité d'honneur qui, en général, est une figure un petit peu emblématique du carnet de voyage ou de la bande dessinée de voyage. Donc, le prochain, qui est en kiosque depuis quelques jours, c'est Jacques Ferrandez avec... qu'on connaît évidemment pour ses carnets d'Orient autour de l'Algérie. Voilà, donc c'est lui qui fait la couverture, qui est l'invité d'honneur de ce numéro. Mais on a eu Titouan Lamazou, on a eu tout un tas
de abonnez-vous, c'est vraiment une très très belle revue. Alors, j'avais une question avant qu'on écoute la musique. Vous connaissez l'Afrique, vous connaissez Charleville-Mézières tout de même.
Alors, j'ai eu la chance de faire un premier livre sur cette... en fait, plusieurs, un premier carnet de voyage qui était sur le train djibouto-éthiopien. Et j'ai fait ça avec un rimbaldien, avec Claude Jean Collat, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un grand, grand, grand connaisseur de Rimbaud et qui a écrit tout un tas de bouquins sur Rimbaud. Et on est partis ensemble avec d'autres personnes, mais on était ensemble sur ce livre. Il a écrit sur ce livre et j'ai dessiné ce livre. Et on a eu la chance d'avoir des planches qui étaient exposées au musée Charleville-Mézières, au musée Rimbaud de Charleville-Mézières.
Il est né à Charleville-Mézières,
oui,
pour ceux qui ne le savent pas encore. Et sur cette même page, il y a ce monsieur qui est un peu votre... Comment on va dire, votre mentor, votre...
Oui, alors c'est un petit clin d'œil. Alors, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais ce n'est pas le vrai directeur du musée Rimbaud à Charleville. En fait, ce personnage, c'est Amin Malouf.
Mais oui,
en fait.
Bien sûr, c'est évident. Alors, c'est pour ça que j'étais un peu surprise.
Alors, je ne suis pas sûr de le reconnaître beaucoup, mais en tout cas, il y a un air d'Amin Malouf. Et c'est un... Amin Malouf m'a toujours énormément inspiré. Une de mes premières lecture, justement, quand j'étais en Afrique, c'était Léon l'Africain d'Amin Malouf. Et j'ai eu la chance de faire une adaptation du périple de Baldassare en trois tomes chez Casterman à l'époque. Et vraiment, bon, c'est un petit clin d'œil.
Il n'est
même pas au courant, voilà.
Ah, donc, bon. Ah, il va vous faire un procès, attention. Alors,
probablement. probablement.
Alors, nous... En fait, ça semble assez logique que Rimbaud vous ait fasciné, hein, puis ce goût de l'aventure... C'est pas un livre sur le poète, hein, je répète, c'est le livre sur l'aventurier, mais aussi quelqu'un d'assez fragile ou tourmenté, qui a beaucoup de problèmes, hein, sa vente d'armes. C'est un personnage vraiment qui est multiple, complexe, et vous avez réussi à imaginer un peu comment il pouvait avoir vécu ça au 19e siècle ?
Oui, alors, je dirais l'avantage, moi je comprends certaines de ses lettres, en fait, sa solitude. Une grande, grande solitude. Alors, au Harare, il était avec un aide, je ne sais pas comment on peut dire ça, un apprenti, un compagnon, qui s'appelait Jamy, qui était avec lui. Alors, on connaît les penchants, évidemment, homosexuels d'Arthur Rimbaud, mais il avait également une compagne, Mariam, dont je parle dans le livre.
Il y a une très belle Enfin, il y a plusieurs très belles pages avec tout de même aussi les poèmes. Donc,
Il y a quelques poèmes au départ, ouais, au début, voyelles qui m'ont marqué quand même quand j'étais plus jeune, hein, même si je connaissais pas vraiment Rimbaud, mais on a tous à l'école appris au moins un poème de Rimbaud. Et cette Mariam, en fait, c'est un peu c'est toute l'ambiguïté du personnage quand même, parce qu'elle est, ils sont en couple, et puis il la répudie quand justement il se lance dans ce commerce d'armes improbable avec des vieux fusils belges complètement dépassés. C'est surréaliste. Et d'ailleurs, il y a un Nîmois qui est dans l'histoire, Soleillé, qui s'associe à cette caravane, bon, qui décède quelques temps après. Donc Rimbaud va partir.
C'est pour ça qu'il y a eu cette exposition Rimbaud Soleillé
au Carré d'Art. Ouais.
Au Carré d'Art. Alors je vous propose, puisque quand vous voyagez, vous rencontrez beaucoup de personnes. Hein, c'est un métier aussi de contact.
Hein, de rencontre, oui, absolument. Ouais.
Et vous avez choisi comme musique, je vous laisse dire le nom.
Oui, alors c'est Mulatu Astatke.
Heureusement que je n'ai pas essayé.
Voilà. Alors c'est un musicien et chanteur éthiopien, hein, avec une musique, c'est de l'éthio-jazz. Donc moi, j'adore cette musique. Et c'est un morceau qui s'appelle Yegele Tezeta, voilà, qu'on a choisi. Et qui, je pense, est assez. Colle assez bien avec le livre.
Par exemple, là, je tombe sur la double page 64-65. Avec cette couleur, votre bleu là est plutôt vert.
Alors au Harar, en fait, les maisons, puisque là vous êtes sur une page qui représente les quelques maisons du Harar, en fait, à la fin du Ramadan, toutes les maisons sont repeintes.
D'accord.
De couleurs vives. Alors il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu, c'est incroyable au milieu de ce sable et puis de cette végétation,
de voir ce
foisonnement de couleurs qui émerge de la cité.
Et vous y joignez des reproductions de photos, ces fameuses trois photos de Rimbaud, peut-être.
On n'en a pas beaucoup, oui. Alors, pourtant,
là aussi, elles étaient en grand au Carré d'Art. Allez,
absolument.
Nous écoutons, puisque vous pourriez parler des heures, Joël, mais on va écouter la musique. Thank you. Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Joël Alessandra pour son roman graphique. J'aime bien ce titre. Oui. Je est un autre, Rimbaud, le poème perdu au Harare, un voyage avec Rimbaud. Et c'est un très beau livre. Et là, vous séchez l'éditeur Daniel Maguin.
Oui.
Donc, vous avez fait des infidélités, non?
Oh, ben, je suis un petit peu... Je vogue en fonction. Ouais. Alors, vous savez, chez les éditeurs, enfin, chaque éditeur a un petit peu sa patte, hein, sa ligne éditoriale, comme on dit. Donc, on ne peut pas présenter tous les projets à tous les
au
éditeurs,
même
éditeur. Il y a certains projets qui se prêtent plus que d'autres à certains éditeurs. Et celui-là était tout à fait propre. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui collait bien avec la ligne éditoriale, l'image de Daniel Maguin, c'est-à-dire des beaux livres en général, c'est-à-dire quand je dis beaux livres, c'est pas du tout péjoratif, on appelle ça des beaux livres, qui sont des livres d'images quand même souvent.
Puis une belle couverture toilée.
Voilà, on a une relure qui est assez magnifique. Alors je tiens un petit peu à rendre hommage à Vincent Audin, qui est l'éditeur chez Daniel Maguin, qui s'est occupé de ce livre et qui a suivi ça de très près, et notamment la fabrication avec ce choix de papier. On n'est pas sur un coucher, mais on est sur un offset qui a une belle main, ce qu'on appelle un Munken, enfin qui est un papier mat, la couverture, comme vous dites, est étoilée. Donc il y a une sensualité, une sensibilité qu'on a.
C'est un beau livre, on a plaisir à tourner les pages, à le
merci
toucher.
Beaucoup.
Mais c'est ça un beau livre.
Et
hein,
voilà. Et donc ensuite les pages, donc comme on disait tout à l'heure, sont des grandes planches, etc., qui seront ensuite mises en vente à la galerie, puisque les éditions Daniel Maguin, c'est avant tout une galerie d'originaux de bande dessinée, l'une des plus grandes galeries de Paris et de France, qui se situe rue du Louvre. Et il y a de très, très belles expositions chez Daniel Maguin.
Donc on note, hein, 36 voilà. Rue du Louvre.
Absolument. Ouais. Et c'est donc, voilà, un bel endroit pour... Et donc, Daniel Maguin, c'était vraiment l'éditeur tout à fait logique pour ce genre de livre.
Ça vous a pris combien de temps du jour où vous avez décidé, enfin, où vous saviez que vous alliez être publié et la réalisation de tout cela? Vous aviez déjà vos dessins, vous aviez...
Oui, alors il y a quand même une grosse part qui est faite, puisque ce sont quand même des projets qui sont mûris pendant très longtemps. Enfin,
bien
même
sûr.
Si on n'est pas sur le travail intrinsèque à l'atelier, en train de plancher, en train de... Alors, pour le coup...
Mais vous l'aviez en tête depuis longtemps.
Oui, ça fait une quinzaine d'années.
Ouais.
Enfin, facilement.
En fait, il a fallu que ça mature. Hein,
il a fallu le bon moment, le bon éditeur, un alignement des planètes, enfin tout ce qui va ensemble.
Et une liberté de
composition. Absolument. Alors justement, dans le process, on est un petit peu loin du process classique, en tout cas s'il y avait un process classique de bande dessinée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de storyboard, il n'y a pas de découpage. Je connais à peu près l'histoire que je veux mener et je me laisse porter au gré des images, en fait. Et c'est ça qui est génial et qui est passionnant.
Vous saviez le nombre de pages au point de départ.
Bah, ça, c'est une des contraintes éditoriales, puisqu'on nous dit, voilà, il y a des prix de fabrication, et ça c'est le travail de l'éditeur, et l'éditeur va dire on ne doit pas dépasser 160 pages ou 200 pages, ou voilà. Là on est sur 166 pages, on ne doit pas dépasser ça, et c'est à moi ensuite à rééquilibrer un petit peu le rythme narratif, à mettre des doubles pages quand il y a besoin de souffler, à mettre un petit peu de gaufrier quand il faut, mais...
Gaufrier, j'avais appris ce terme avec vous, alors... juste à la première émission, un gaufrier.
Alors gaufrier, oui, c'est un petit peu ça, c'est une cuisine.
c'est...
Élaborer un livre, c'est quand même une cuisine avec des recettes, et puis avec plein de choses complètement des surprises incroyables quand on travaille, un petit peu comme en cuisine.
Hein. Oui, non, mais c'est un beau livre au terme de...
Alors j'espère que ce ne sera pas une réchauffée pour les lecteurs.
Et alors de vous mettre en scène, ça vous n'êtes jamais pareil,
Non, alors en fait, souvent dans mes bouquins, je me mets en scène. Alors c'est un petit... On parlait de recettes tout à l'heure, c'est un petit truc aussi pour pouvoir créer une narration, créer un prétexte, donner une ligne directrice et un récit. Et c'est vrai que j'ai du mal à trouver mon propre personnage, en fait, à me dessiner. Chacun des livres où je me mets en scène, je suis différent. Alors l'avantage, c'est que j'arrive quand même à me faire assez mince, assez beau gosse. Je commence à... Le beau gosse, il commence à faiblir. Là,
40 livres, vous n'avez pas fait ça tout de même en 10 ans. Hein.
Mais l'avantage, l'avantage de la BD et du dessin, c'est qu'on on peut se fantasmer et se mettre un petit dans, dans le corps de, d'un personnage un petit peu... Bon, il faut quand même qu'on ait des personnages qui se tiennent en bande dessinée, qui soient un peu des héros et des... Voilà.
Alors j'aime beaucoup, j'aime le livre, mais j'aime beaucoup la fin avec cette page, je ne vois pas le numéro, mais quel, alors 460, 61, 63, avec cette, je ne vais pas tout dire, mais
non,
c'est, ce flou, enfin j'aime beaucoup. Et puis, pourquoi vous avez demandé à Idriss Youssouf Elmi de,
alors, Idriss Youssouf, c'est
de,
un...
d'écrire quelque chose à la fin?
Alors, ben, c'est Idriss, c'est un poète déjà. Alors, donc c'est, alors il y a deux poètes qui ont été, qui ont fait partie de l'aventure. Alors, le premier, c'est Chamblot. Alors, je vais parler de lui en premier. Chamblot, c'est un ami poète qui a, on a été ensemble à Djibouti dans les années 90 et on est copains depuis, voilà. Et Chamblot est un poète et je lui ai demandé d'écrire le dernier vers de Rimbaud. On ne dévoile pas, mais c'est, c'est lui qui a écrit. Alors, pourquoi Chamblot ? Parce que déjà, c'est un ami. Et puis, surtout, parce qu'il connaît très, très bien la Corne de l'Afrique également. C'est un grand amateur, un grand connaisseur de Rimbaud. Il connaît le Rimbaud aventurier et il comprend bien ce qui a pu se passer dans sa tête, et, etc. Ouais. Et donc, il était tout à fait légitime pour écrire ce dernier poème. Et puis, Idriss Youssouf, qui est un poète, mais lui, il est djiboutien, d'origine somalie. Et je le connais depuis des années et des années.
On avait fait un...
Ah oui, oui, oui. Et puis on a fait ce fameux voyage avec Claude-Jean Collat, le Rimbaldien. Idriss était de la partie, donc on était en 2007. Donc on est parti sur le train. Et donc je connais Idriss depuis très longtemps. Et
son
je
texte
trouve...
est très beau.
Et il écrit divinement bien. Mmh. Et donc l'éditeur était complètement d'accord pour qu'il fasse la postface de ce livre.
Et c'est très bien, justement, puisque vous avez dit que ce n'est pas le Rimbaud poète, mais c'est... votre livre est empreint de poésie. Et petite question, l'écriture, c'est la vôtre ?
Oui, oui, absolument. Ouais,
oui. J'avais un doute, parce que j'ai surtout vu vos dessins et pas trop votre écriture. Donc, je me suis dit, est-ce l'écriture de... Une très belle écriture.
C'est compliqué de réécrire un poème de Rimbaud avec la calligraphie de Rimbaud. On a, hein, moi, j'ai des bouquins, des facsimilés de ses poèmes à la maison. Il a une écriture qui est très belle, mais qui est très difficile à déchiffrer, parce qu'on n'écrivait pas de la même manière au 19e qu'on écrit aujourd'hui, et avec la plume, etc. Et un roman graphique, c'est quand même un... Alors, c'est un beau livre, mais c'est aussi un outil de communication dans le sens où tout le monde peut arriver, doit pouvoir lire ce qu'on écrit dans les bouquins. Donc, voilà.
Ben, merci à vous, Joël. Je répète, c'est un très, très beau livre. Et vous nous emmenez en voyage et vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission Itinérance. Et bon voyage à vous, bon livre.
Merci Sylviane de m'inviter et à très vite.
À très bientôt, puisque je sais que vous publiez énormément. Bravo à vous. Bravo, bravo.
Merci infiniment.
Avec les gens.